Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Maurice Carême. Maurice Carême, né le 12 mai 1899 et mort le 13 janvier 1978 à l'âge de 78 ans, est un écrivain et poète belge de langue française. Vous le connaissez tous, c'est certain. Il a accompagné nos cours de français et de poésie. Élu prince en poésie au Café Procope à Paris en 1972, Maurice Carême a vu son œuvre traduite dans de nombreuses langues. Par un aspect de son œuvre, il est très apprécié pour son amour des enfants, registre essentiel de son travail de création. Mais il est aussi un poète de la grandeur et de la misère de l'homme. Récompensé par de nombreux prix littéraires, illustré par de grands artistes, son œuvre joint à la simplicité de la forme l'expression d'une joie de vivre qui n'exclut pas une certaine gravité. Un bocal où flottent des poissons multicolores que seuls les enfants peuvent voir, une vague amoureuse d'un goéland, une roulotte enchantée, un géranium diabolique, un magicien qui vole les étoiles dans le ciel, un bonhomme de neige qui veut devenir un homme, Maurice Carême, c'est avant tout le goût de la féerie et l'amour de l'enfance dans lequel nous plongeons avec Alain de Valpeau et Jean-Philippe Navarre.
À qui rêve d'être poète, Dieu donne un tranquille visage, des mains patientes et sages, une pensée si inquiète, si humble en son repli sur soi, qu'elle comprend l'âme des bêtes et un cœur sans bornes, sans âge ou comme en des grottes profondes. Toutes les douleurs se répondent. Il trouvait que le poète était là pour permettre aux hommes d'être heureux. Mais il n'ignorait rien de l'horreur de ce monde. Rien.
Une vie, une œuvre, Maurice Carême, poète tout simplement. Par Jean-Philippe Navarre et Alain de Valpeau.
Mais Maurice Carême, d'abord, il y a déjà quelque chose de très étonnant, c'est que ce n'est pas un pseudonyme. Or, c'est un très beau prénom qui va bien avec le nom, Maurice Carême. Il s'est appelé comme ça de naissance, et c'est quelqu'un qui a donc écrit une œuvre très importante par son volume, par sa diversité qui est méconnue, et dans une conception de la poésie et de la place de l'écrivain dans la société qui lui était très personnelle et convaincu qu'il fallait entrer en poésie le plus tôt possible.
L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes, au-dehors, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis.
C'était Maurice Carême.
Oui.
C'est Maurice Carême. Qu'est-ce qu'il faisait ?
Il créait des poèmes.
Il créait des poèmes, oui. Et est-ce que Maurice Carême, il habitait très loin d'ici ?
Non.
Où est-ce qu'il habite ?
Il habitait dans une petite maison.
Dans une petite maison, toute blanche, à Anderlecht. Et puis aussi, quel était son autre métier ? Oui.
Il était un professeur.
Il était un professeur, voilà. Il était instituteur.
Et dans la cour gonflée de hêtre, il pleuvait de l'or en miroir.
Le texte de l'école m'avait touché beaucoup parce que j'ai été instituteur et mes souvenirs d'enfant aussi revenaient avec ces cours de récréation, avec les arbres, avec les feuilles qui tombaient et avec aussi les enfants qui regardent parfois par la fenêtre. Mais j'ai senti en même temps une certaine nostalgie. D'ailleurs, ça se dit à la fin, « Oh, que ne suis-je encore dedans pour voir au dehors les colombes ?» J'ai trouvé ça tellement beau.
Sur les tableaux d'un noir profond, voguaient de grandes majuscules, où de l'aube au soir, nous glissions vers de nouvelles péninsules.
Et alors après, la musique, c'est tellement facile à mettre là-dessus. Jacky Gallou, je suis un compositeur, auteur, interprète, au départ pour les enfants, mais j'élargis beaucoup mon répertoire. Voilà. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Au dehors, c'était plein de rondes, au dehors, plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commence à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Là, je viens de l'inventer, là, tout de suite. Son texte est tellement bien structuré.
Je n'ai jamais écrit de poésie. Je fais parfois des vers, mais ce sont des vers de circonstances, dont peut-être la sophistication vient de mon apprentissage auprès de Maurice Carême. Ici, nous sommes dans un palais à Bruxelles. Mon nom, c'est Jacques de Decker. Je suis écrivain, journaliste, et j'ai été élu membre de cette Académie de langue et littérature française de Belgique, dont je suis le secrétaire perpétuel, un peu le capitaine. Maurice Carême n'a jamais été intéressé par le fait d'être membre de l'Académie, ce qui n'était pas le cas d'autres écrivains, notamment Georges Simenon. Carême aurait été, je crois, totalement indifférent au fait qu'on retienne son nom. Mais qu'on conserve en mémoire quelques vers de lui, ça, je pense que ça le préoccupait.
J'ai fait un dessin, bon, très librement, au crayon. Alors j'ai fait un homme qui se promène. Dans sa main, il tient la lune. Et puis au-dessus de son béret, ben, c'est un oiseau. Et l'oiseau est debout et reste avec le poète. Voilà, il y a l'amour des animaux, l'amour de la poésie, le mystère, c'est la lune, et puis se promener, et puis un beau sourire de Maurice Carême, parce qu'il aime la vie. Gabriel Lefebvre, illustrateur de livres. Alors, qui est Maurice Carême? Maurice Carême, c'est un poète belge qu'on a très bien connu quand on était enfant, surtout à l'école primaire. Et alors qu'on relit, et je viens de relire c'est un peu ses poèmes, et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut retirer de ses poèmes, c'est l'amour de l'enfance. Et puis aussi l'amour de la nature. Il parle beaucoup des animaux dans ses poèmes. Quand on lit ses poèmes, on voit des images immédiatement. Pour un illustrateur comme moi, ça a été très facile de l'illustrer.
Il faut plus d'une pomme pour remplir un panier. Il faut plus d'un pommier pour que chante un
verger. Bonté de Maurice Carême.
Il faut
plus d'une pomme pour remplir un panier.
Il faut plus d'une pomme pour remplir un panier.
Il faut plus d'un pommier pour que chante un verger.
Il faut plus d'un pommier.
Un peu de bonté. Luise comme une pomme. Que l'on va partager.
Moi, quand je dessine, je rêve. Il y a de la poésie dans le dessin, dans la couleur. Vous savez, quand on dessine, on est proche de l'enfance. Hein. On essaye de retrouver même ce dessin de l'enfance où on avait une certaine spontanéité, une certaine liberté. Picasso disait, quand j'étais un petit enfant, je dessinais comme Raphaël, et puis j'ai passé mon temps pour revenir à un dessin, pour dessiner comme les enfants. Et Maurice Carême, il dit exactement la même chose. Parce que dans l'enfance, il y a une certaine spontanéité, il y a une certaine liberté. On n'est pas encore contrôlé par la société, par l'école. Et on perd toute cette spontanéité, toute cette imagination.
Il a conservé très longtemps, et toute sa vie à mon avis, cette espèce de vertu d'émerveillement, de constante vigilance, comme ça, de curiosité.
Je suis François-Xavier Lavenne, directeur de la Fondation Maurice Carême à Bruxelles. On est en direction de la Maison Blanche. Donc ici, on est en plein cœur d'Anderlecht. Donc il faut s'imaginer Maurice Carême, l'enfant de la nature qui a vécu cette enfance dans les champs à Wavre. Eh bien le voilà, il débarque en plein milieu de la ville et il est nommé instituteur. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale et donc il commence par donner le cours de néerlandais. Parce que Maurice Carême adore les poètes néerlandophones de Belgique. Il a appris le néerlandais d'ailleurs qu'il connaissait un petit peu pour l'avoir entendu sur les marchés à Wavre, mais donc il l'a quand même vraiment appris pour pouvoir lire ces poètes qu'il adore, Guido Gezelle, Van Ostaaien, une poésie plongée dans le quotidien le plus humble et qui est animée par une très grande spiritualité. Il faut s'imaginer, donc Maurice Carême commence à louer, notamment donc dans la rue Wayer, et puis il a enfin, au début des années 30, les moyens pour se construire une petite maison. Alors cette maison blanche, le quartier a énormément changé, il faut s'imaginer, donc Maurice Carême s'installe au bout de la ville. Ce sont les marécages de la Pède. En face, on a une grande ferme. Maurice Carême n'a jamais connu le boulevard qui porte son nom, qui a été fait dans les années 80, qui est au-delà de la maison. Donc il faut s'imaginer qu'il est au milieu de la nature. Il n'y a qu'une seule chose qui existe déjà, c'est le stade de football, et qui va lui inspirer un de ses tout premiers romans. Donc on est dans les années 20, et il écrit un roman qui s'appelle « Le martyr d'un supporter ». Alors ça, Maurice Carême aimait le football, et il aimait à dire que quand il n'avait pas la possibilité de se rendre au stade, eh bien il lui suffisait d'ouvrir la fenêtre de son bureau pour deviner le score. Et donc il va s'inspirer de ce milieu pour écrire un roman qui s'appelle « Le martyr d'un supporter » qui raconte la déchéance d'un homme qui a une vie tout à fait banale. C'est un fonctionnaire, mais qui s'ennuie terriblement dans l'existence. Et là, dans ce stade de football, cet homme qui a toujours une vie banale et rangée est soudain transporté par cette espèce d'enthousiasme d'être dans la foule, cette impression de liberté que donne la foule. Il est complètement ivre et progressivement, il va perdre complètement pied avec la réalité. On a une sorte de quête mystique dévoyée avec cet homme qui confond la religion et l'idolâtrie. Donc on tombe dans l'idolâtrie du football et il devient le supporter le plus violent, un véritable hooligan. Donc Maurice Carême décrit la plongée dans la violence, dans le hooliganisme. Ce sont des thèmes qui sont assez nouveaux et tout ça va se terminer tragiquement juste là, dans le parc d'Anderlecht, le parc Astrid. La prose de Maurice Carême est extrêmement grave et souvent tragique. On va avoir aussi l'histoire d'un trou dans la tête qui raconte la plongée d'un homme dans le délirium tremens, sous le coup d'une addiction. Cette fois-ci, ce n'est pas l'addiction à la foule et au sport, c'est l'addiction à l'alcool. On va avoir un récit très sombre aussi qui est Médua, qui est une nouvelle fantastique qui raconte un homme qui à nouveau bascule aux frontières du réel en tombant amoureux d'une méduse dont il pense qu'elle se transforme en femme. Là, on est dans le fantastique, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et alors, Maurice Carême a aussi écrit de très 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 beaux contes, des contes pour lesquels il a reçu le prix Rossel, donc qui est l'un des prix les plus importants en Belgique. Ce sont les contes pour Caprine. Et il y a un de ces contes qui résume bien la vision qui habite son œuvre. C'est l'histoire d'un magicien, et ce magicien a trouvé le moyen de voler les étoiles dans le ciel. Personne ne s'en rend compte, parce qu'il n'y a plus personne qui pense à regarder le ciel, à consacrer quelques minutes simplement à rêvasser en regardant le ciel. Les seuls qui s'en rendent compte, ce sont les enfants, et ce sont les poètes, ces grands-enfants, mais on leur dit « ça n'a aucune importance, les étoiles ». Et le moment où tout le monde va se mettre à paniquer, c'est lorsque l'étoile polaire disparaît, parce qu'à partir du moment où l'étoile polaire disparaît, on ne peut plus faire du commerce. Donc les gens se mettent à la recherche d'une fée, et quand ils la trouvent, la fée leur passe un savon en leur disant que ça n'est pas normal, eux qui ne croyaient plus aux fées viennent la voir, et que c'est tout à fait impossible qu'ils n'aient même pas songé à un seul moment à regarder le ciel. Et donc, ils doivent lui promettre que si elle réussit à remettre les étoiles dans le ciel, et bien chaque jour, ils passeront quelques minutes tous ensemble à ne rien faire, rien qu'à profiter de la beauté du monde. Et elle leur dit de cultiver cette espèce d'enthousiasme. Et à la fin, les hommes font ce qu'ils ont promis à la fée. Ils se rassemblent tous les soirs, pour regarder le ciel. Je crois que ça, c'est vraiment un condensé de la pensée de Maurice Carême.
Alors, c'est un poète pour les enfants, oui, notamment, mais son œuvre contient de multiples facettes. D'une certaine façon, je pense aussi qu'il se rendait compte que la société qui évoluait donc dans le XXe siècle, première moitié du XXe, et puis la suite, était une société menacée par une sorte de désacralisation, c'est-à-dire que tous les enfants jadis aller à la messe, par exemple. Ben, c'est très important d'aller à la messe, sur un plan artistique, sur un plan poétique. C'est-à-dire, c'est d'entendre des formules, d'entendre la répétition de formules, d'entendre de la langue chantée, la prière est au fond un poème. Et des tas de formules s'inscrivaient dans la mémoire de tout le monde. Et il sentait bien que par une évolution vers une beaucoup plus grande prose plutôt que de poésie, allait nécessiter peut-être une compensation. Et que la compensation ou le correctif viendrait de la poésie. Le fait qu'il ait été toujours tellement attentif à la limpidité de son discours, etc., a favorisé cette pénétration dans le public très très jeune et qui a laissé des traces. Enfin, quelqu'un comme Michel Onfray, encore récemment, citait Carême. Parce que, bon, comme beaucoup, il a rencontré la poésie sous la signature de Carême.
Dans le jardin du Luxembourg, sous le regard lointain des reines, les enfants jouent comme toujours. Nerval, Paul Fort, Carco, Verlaine, où sont vos silhouettes blêmes? Sous les marronniers au bras gourd, on entend couler la Seine, sans que là-bas, du haut des tours, Paris de rien se ressouvienne.
Quand on lit un poème de Maurice Carême, on est tout de suite dans un rythme, dans une cadence, un peu comme celui du cœur, qui nous berce. Tout de suite, on fredonne. On a envie de fredonner, en fait. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées, ou même des institutrices, ou, qui naturellement ont trouvé des mélodies sur cette poésie, c'est parce qu'on est bercé par ce rythme du cœur. Voilà. Je suis Domiti, donc je chante pour les enfants depuis à peu près 2010-2011. Et l'album que j'ai consacré à Maurice Carême est très important pour moi parce que c'est mon premier album. Et donc c'était vraiment un moment très intime où je me suis retrouvée avec moi et où je me suis reconnectée à cette enfance.
Il faut comprendre comment Maurice Carême est arrivé à la poésie et à l'imaginaire de l'enfance. Donc au départ, Maurice Carême est un jeune poète plutôt sensible aux avant-gardes. Par exemple, sensible au surréalisme, sensible au futurisme, par exemple dans Hôtel Bourgeois. Et puis, au début des années 30, il traverse une crise existentielle. Il a l'impression de s'être perdu. Pour essayer de se retrouver, il va se lancer dans l'écriture d'un grand recueil sur son enfance, essayer de retrouver les valeurs de cette enfance extrêmement humble, mais extrêmement heureuse, illuminée par la personnalité de sa mère. Et donc ce sera le recueil mère. Et au moment où il est en train de changer son style, de revenir à un style beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, pour coller aux valeurs de cette enfance, il vit une expérience pédagogique dans sa classe. C'est-à-dire que un de ses enfants lui présente un petit poème qu'il a écrit. Et Maurice Carême est ébloui. Il va encourager les enfants de sa classe à écrire. Il va publier tout ce que les enfants ont écrit. Ce sont d'abord poèmes de gosses et puis prose d'enfants. Deux gros recueils, à chaque fois précédés d'une préface. Dans cette préface, il dit « J'aurais dû être capable d'apprendre ce qu'était la poésie à mes élèves, puisque j'étais leur professeur et j'étais déjà un poète. » Mais que les enfants n'en ont pas besoin, parce que spontanément, ils savent ce qu'est la poésie.
Être poète consisterait donc à retrouver sous les sédiments apportés par les coutumes, les morales, les habitudes, les intérêts, cet état de disponibilité, de gratuité absolue qui, en nous rendant pareil au vent, au soleil, aux nuages, nous replonge dans le courant même de la vie.
Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra. Le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir deux morceaux de soleil. Donc voilà, le soleil, c'est le trésor de la vie. C'est le poète qui veut nous chanter sa joie et c'est précieux, c'est dans ses yeux. Et les yeux, on sait que c'est le reflet de l'âme. Pour moi, tout est dit sur la beauté de cet homme, sur ce qu'il a envie de dire et de la manière la plus simple et la plus profonde possible.
On sent donc dans son œuvre l'importance de ce métier d'instituteur, de cet homme qui vit au contact des enfants, qui essaie de leur apprendre des choses pratiques, puis surtout de former leur imaginaire, de leur apprendre la fantaisie. Puis il y aura des poèmes qui vont naître comme ça, directement dans l'école. Et le plus beau, le plus célèbre, c'est Pour ma mère. Donc Maurice Carême, un jour, arrive à son école et il se rend compte que tous ses collègues ont des bricolages en dessous des bras. Il se rend compte qu'il a oublié la fête des mères. Et donc, il va rapidement improviser un poème. Donc, il va donner un exercice à faire à ses enfants. Il va réfléchir et puis il va commencer à écrire. Il y a plus de fleurs pour ma mère dans mon cœur que dans le monde entier. Plus de mère le rieur pour ma mère dans mon cœur que dans tous les vergers. Et bien plus de baisers pour ma mère dans mon cœur qu'on en pourrait donner. Il va vite aller acheter du papier pour découper un cœur. Et tous les enfants vont recopier ce poème, vont le dire à leur maman le jour de la fête des mères. Et tant d'années plus tard, tous les ans, à la fête des mères, eh bien, on voit arriver des tas de demandes de reproduction de ce poème. Voilà, tant d'années plus tard, ce poème continue à vivre et des enfants continuent à le dire à leur maman le jour de la fête des mères. Voilà, on découvre la maison. Donc, petite maison blanche, la maison blanche. Hein. Maurice Carême a écrit un poème sur sa maison, même tout un recueil consacré à la maison blanche. Il disait « Notre maison était debout sur nos paupières avant que le maçon n'eût la truelle en main et ses pignons choulés luisaient dans un matin dont nous avions rêvé la tranquille lumière. »
Souvent, nous en parlions à voix tendre et voilée. Sa girouette ailée se mouvait sans soutien. Et quand nous évoquions l'entrée de son jardin, une si pénétrante odeur de giroflée flottait autour de nos fronts unis que déjà pour en toucher les fleurs, nous étendions les doigts.
Il avait rêvé de cette maison depuis très longtemps, de cette maison comme un havre de paix. Une grande partie de ce recueil autour de la maison s'appelle les visitations. Donc voilà, il invite des gens à venir dans cette maison. Il disait « J'aimerais que ma maison eût des murs de verre. On m'y verrait écrire avec de la lumière ces vers que je dédie à de lointains amis. » Il a voulu que cette maison, à sa mort, reste un lieu où on pourrait se souvenir de tout ce qui a entouré sa vie littéraire et aussi de tous les amis qui sont venus. Et il faut regarder la petite girouette. Hein. Vous avez une petite chèvre au sommet du toit. Eh bien, ça, c'est Caprine, une petite référence. Vous connaissez les contes pour Caprine, le surnom qu'il avait donné à sa femme. Dans son journal intime, il dit que la première chose qu'il fait en rentrant de l'école, c'est d'aller dire bonjour à ses plantes, à ses fleurs, qu'il les connaît toutes par leur prénom. C'est ça qui est le cœur de son inspiration. Il écrit dans la nature. Il a besoin d'être au pied d'un arbre, au bord d'une rivière. Il a besoin de se déplacer.
Je m'en allais jadis, sans hâte et sans souci. Le vol d'une hirondelle suspendait ma course, et la figure grave et nue de la grande ours n'était qu'un cerf-volant balancé par la nuit. Je ne demandais rien à l'amour, si ce n'est un regard étonné, un candide sourire à celle que j'aimais sans oser le lui dire, et qui peut-être aussi, sans le dire, m'aimait.
Quand on est attiré par les voix. Hein?
Bonjour. Ça sourit donc.
La maison est belle. Hein?
Je m'appelle Jeannine Burny. Je me suis liée à Maurice Carême en 1943, mais en fait, le premier contact remonte 2 ans plus tôt. En fait, ma mère m'oblige à faire des études de professeur de couture. J'ai une mère, qu'est-ce que je dirais, assez abominable. On ne peut pas mieux la comparer qu'à Folcoche, dans Vipère au Point. Et là, nous sommes obligés d'aller au cours de diction. Et mon professeur de diction me fait passer immédiatement public. Et c'est là, on est en 41, que Maurice Carême est membre du jury. Et il m'avouera plus tard qu'en voyant arriver sur la scène, il a une espèce d'éblouissement et l'impression que quelque chose d'extraordinaire allait nous lier. J'ai 16 ans. Et nous nous lions 2 ans plus tard. À partir de 1948, donc 5 ans plus tard, on commence une longue collaboration autour de l'œuvre qui ne cessera jamais, qui continuera même après sa mort. Et puis il y a eu une chose extraordinaire dans notre relation, c'est à partir de 1954. Il me dit, tu as le droit de refuser, mais je ne peux partir écrire seul. Je veux que tu m'accompagnes. Je n'aurais jamais osé demander ça. Et je vais donc assister à la création de l'œuvre. En général, jamais un créateur ne supporte une présence comme ça. Maurice me l'expliquera peut-être un jour en me disant, en fait, quand je suis avec toi, je ne suis pas avec quelqu'un d'autre qu'avec moi-même. D'ailleurs, ça reste une espèce de miracle dans ma vie qu'on puisse s'entendre à ce point-là avec quelqu'un, quoi. Et de là, cette longue collaboration, cette connaissance de l'œuvre que j'ai. Et là aussi, je vais penser, à partir surtout de 60-61, à noter dans mes cahiers les lieux exacts, les dates exactes des poèmes. Et aussi, je vais garder, Maurice va se moquer de moi, je vais garder tous les premiers jets de poèmes.
Et tu étais si amoureux de tout, sans oser le dire, que tu n'avais pas assez d'yeux pour boire leur joli sourire. Tu avais 15 ans, souviens-toi, tu voulais devenir poète. Tu étais fou, tu étais bête, tu écrivais. Mon cœur est roi, et tu te murmurais tes vers sous la pluie, avec tant de joie que tu tenais comme un pivert, l'univers serré contre toi.
En fait, il commence à écrire à 15 ans. Il tombe amoureux d'une petite jeune fille de son âge. Il lit déjà beaucoup la poésie. Sa mère lui a dit les contes quand il était enfant, lui a dit certains poèmes, notamment des poèmes de Théophile Gautier. Il va continuer à écrire, il disait à propos de tout et de rien. D'ailleurs, un poème qui est toujours là, c'est L'étang, qui a paru dans les 63 illustrations pour un jeu de loi en 25, et il l'a écrit à 17 ans. Et c'est carême, c'est du carême. Il a ce ton dès le départ.
Concernant son enfance, il y a un poème qui est très important sur la rue des Fontaines où il évoque cette enfance très pauvre mais très heureuse. Au milieu de la nature, il dit « Je suis né un grand jour de peine, mais né dans la rue des Fontaines. Mes parents n'avaient pas d'argent, mais auprès le linge était blanc. » C'est vraiment le point de départ
tout près avec des fleurs à son collier.
Et la ville passait tout près avec des fleurs à son corset. Lorsque ma mère l'entendait, ma mère aussi chantait. Peintre, mon père montait au ciel. L'échelle était son hirondelle. Et là, au milieu des oiseaux, il apprenait des airs si beaux qu'il faisait, sans main ni cordeau, balancer tout seul mon berceau. Que voulez-vous ? C'est en chantant que chez nous, l'on devenait grand.
Je crois que c'est vraiment le point de départ pour lui de tout
il
son imaginaire.
Au-dessus du carrefour d'Orval. Je veux dire que je lui ai dit qu'il était beau. Hein. Alors il me disait, tu encourages l'animal, tu me feras déchirer dans 3 semaines. J'étais fou, mon ami, t'es fou. Mais je savais, il est né comme ça, le dernier de la journée. Mais c'était un jour assez faste. Il a écrit ici, à l'époque, hein, on descendait la rue. Moi, j'ai encore connu les marais, là, en dessous, il y a les étangs, maintenant. Il y avait des maisons de chaume, comme du temps de Bruegel, hein, j'avais l'impression. On voyait encore, moi, j'ai encore vu ces paysans, hein, comme Bruegel le dessinait, hein. Ici, à Pède, c'est vraiment la campagne, alors, dans sa splendeur.
Brabant. Aimé des dieux comme aucun sol au monde, mais dont la modestie ignore le besoin d'en souligner la grâce et de crier au loin qu'il n'est de saint plus beau que tes collines rondes, Brabant profondément enfoncé dans ma chair, ainsi qu'un fer de bêche au milieu d'un jardin, Brabant de cœur wallon, au visage latin, mais à l'âme tournée vers le nord légendaire, Brabant dont les moissons débordent de bluets, pour qu'il reste un reflet de beauté dans le pain.
Des gens un jour, dans le monde, vont étudier cette région qui entoure donc Bruxelles. Le Brabant flamand est illustre, puisque c'est là qu'a peint Bruegel. Et le fameux tableau, la parabole des aveugles, ça se déroule dans un village qui existe toujours. Et alors il y a le Brabant wallon, qu'on appelle aussi les Ardennes brabançonnes, parce que c'est un paysage beaucoup plus vallonné.
Jamais en t'adorant, je ne me sentis autre que l'un de tes vallons, que l'un de tes tilleuls. Jamais en te parlant, je ne me sentis seul. Jamais en t'écoutant, je ne me trouvais pauvre.
Il va naître dans un milieu très humble, très pauvre. Le père est peintre en bâtiment. Ils vivent à Wavre, mais ils travaillent à Charleroi, donc. Et les moyens de transport à l'époque, c'est pas la gloire, le chemin de fer, quand même. Donc il voit son père que le dimanche, et il avouera que pour lui, ce dimanche est perpétuelle fête des pères. La mère tient une petite boutique où on vend un peu de tout pour un petit peu avoir plus d'argent et pouvoir nourrir les enfants. Il va passer une enfance extrêmement heureuse, ce qui va lui faire comprendre très vite que l'argent n'est pas synonyme de bonheur. Il dira, on n'avait pas d'argent, mais à 4 heures, ma maman invitait mes copains et copains tartines. Hein, c'est la générosité des pauvres. Hein. Et donc, il sera toujours un homme d'une très grande humanité. Il est très conscient de l'horreur du monde. On ne peut que l'être quand on a vécu les deux guerres, surtout 40-45. Et ça va se refléter dans son œuvre, d'ailleurs. Il y a des poèmes très graves, très tragiques. Et alors, comme il va être très vite, très traduit dans le monde, et tout particulièrement en Russie, et ces deux traducteurs, Koudinov et Razogorov, sauront que lui ne parlera pas à Maurice, et lui confieront. Si bien qu'on aura toujours quelqu'un d'anticommuniste notoire, même s'il n'appartient à aucun parti, Maurice voudra faire partie d'aucun parti. Non, non, il peut y avoir des poèmes très, très, très graves. La liberté, par exemple, quand il dit « Je suis la liberté », répétait-il, « La liberté avec tous les dangers que je vais valoir, et pour me faire taire, il faudra me tuer. » Mais on le laissait faire, on le laissait parler. Il était bien trop solitaire pour amener l'homme à briser le cercle de fer et d'acier où l'injustice et la misère l'avaient peu à peu enfermé. « Je suis la liberté, » répétait-il encore. « Regardez-vous, vous êtes mort. » Mais comme on avait à manger, on le laissait crier.
Il y a deux femmes dans la vie de Maurice, Caprine, qu'il a, lui, baptisé Caprine, et Jeannine. Elle est elle-même aussi institutrice. Non seulement elle devient son ombre, disons, mais elle décide de vouer sa vie à Carême. C'est une situation qui n'a rien de banal, ni de comparable. Elle est entrée en carémie, quoi.
Oui, en bas, c'est un peu le... Je dis, c'est la folie de ma vie, ce que vous allez voir. Parce que la maison était trop petite, alors j'ai fait construire une grande salle d'archives sous le jardin. Là, c'est les trésors des trésors. Ce sont ces fameux cahiers où il recopiait le soir les poèmes écrits la journée. Ça, c'est des choses que Maurice n'a pas finies. D'ailleurs, il m'a fait jurer que je ne laisserais pas publier ce que lui, en son âme et conscience, n'aurait pas publié. Et là, j'ai gardé dans mes cahiers, à moi, je recopiais le soir,
les poèmes écrits la journée. Et là, j'ai gardé des premiers jets de poèmes. Je veux dire, je suis contente d'avoir gardé tout ça, même s'ils se moquaient un peu de moi. En fait, le milieu littéraire belge disait « Carême publie tout et ne corrige rien ». Et j'ai gardé des centaines de poèmes en correction. Je les bénis d'avoir dit cette imbécilité, parce qu'on n'aurait sans doute pas conservé tout ça. Il a vraiment beaucoup, beaucoup mis au point, travaillé. Et là, on a quand même une richesse que rarement, je crois, on a chez un écrivain. Hein. Alors là, vous avez toute la correspondance des grands musiciens, des grands peintres, des grands écrivains, qui est ami de Maurice Carême. Là, vous avez les manuels scolaires. Là aussi, il y a des carèmes dans tous. La majorité française. Là, vous avez les traductions. Là, c'est en Chine-Chine. Et là, c'est à Taïwan. Enfin, voilà.
Au début des années 60, Carême entreprend une anthologie de poésie flamande. Donc, il décide de traduire des poètes flamands. Moi, j'ai toujours été bilingue, puisque mon père était flamand. Carême m'engage comme assistant sur la traduction de la poésie flamande. Et alors, nous devenons amis. Je me rends régulièrement à la Maison Blanche, et c'est là que se fait une grande part de transmission. Et je lui dois une dette énorme de ce point de vue-là, parce que moi, j'ai jamais traduit de poésie, j'ai traduit énormément de théâtre. Et c'est grâce à lui que je me rends compte qu'un mot placé dans un poème, c'est comme une pièce de marqueterie. C'est quelque chose d'une extrême précision dont il faut être capable d'identifier ces différentes strates de signification, mais aussi de résonance, de musicalité, de rythmique, de place dans la phrase, enfin. Et c'est en parlant maintenant que je me rends compte de ça. Au fond, si j'étais aussi tôt attentif à cet aspect-là de la matière verbale, c'est à l'artisanat de Carême que je le dois. Okay.
On est dans le manuscrit de Mère. On découvre cette très belle écriture de Maurice Carême, cette écriture très élégante, avec cette manière de faire notamment les T, avec une sorte de boucle, les T qui sont la fin du mot.
Quand le T est en fin de mot.
Quand le T est en fin de mot. Et donc là, nous sommes sur le manuscrit qui est envoyé à l'éditeur. On voit bien que c'est la copie la plus propre possible, la grattée pour qu'il n'y ait absolument aucune rature, pour qu'il ne puisse pas y avoir de problème. Les pages sont coupées pour faciliter la dactylographie. Alors, ce recueil mère, c'est l'éloge de l'amour maternel, mais c'est déjà la préparation du deuil à venir de cette mère. Il y a déjà la conscience qu'à un moment arrivera la séparation. Et la séparation se fait plus tard dans le recueil La Voix du silence.
Alors, qu'est-ce qui est arrivé pour La Voix du silence? En fait, il est en Tchécoslovaquie à ce moment-là et il ne reçoit pas le télégramme annonçant la mort de sa mère. Et quand il reçoit la lettre de son père, l'enterrement a eu lieu et tout. Et Maurice ne revient pas, il écrit vraiment sous le coup. Il écrit toute La Voix du silence.
Et sur la feuille, il y a un poème, c'est très raturé. Là, on n'est pas du tout devant des poèmes qui sont prêts à être envoyés. On est vraiment sur des premiers brouillons. Et regardez, dans la marche, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit « Qu'en penses-tu? T'ai-je bien comprise? Est-ce ainsi que je me débarrasserai de ma sentimentalité ?» Donc Maurice Carême écrit à sa mère, il dialogue avec sa mère dans les marges du recueil, et ça se fait tout au long du carnet. Il lui parle. C'est dans l'écriture qu'il essaie de vivre ce deuil et de recréer ce lien qui vient soudain d'être rompu.
Hein? Voilà. Depuis le jour où tu es mort, nous ne nous sommes plus quittés. Qui se doute que je te porte, mère, comme tu m'as porté? Et il a toujours dit, pour lui, sa mère n'est jamais morte en soi.
C'est l'idée que la mort fait de nous des sortes d'enfants fragiles qui ont besoin d'être portés par les vivants qui restent et qui resteront vivants tant qu'on acceptera de les porter. Et sur sa tombe, il a dit « quand lorsque je m'endormirai comme un enfant ». Donc c'est la mort, c'est toujours pour lui une sorte de retour à l'enfance.
Et la chance du poète, c'est qu'on puisse encore accepter de porter sa voix, de porter son souvenir. Et à chaque fois qu'un enfant redit un poème de Maurice Carême, voilà, il est à nouveau présent.
Je sais bien maintenant que je ne mourrai pas. Peut-on mourir quand on a été si mêlé au ciel de son pays, à ces vagues de blé que l'on est devenu comme eux illimité? Peut-on mourir quand on a fixé tant de fois les étoiles que leurs reflets au fond des soirs se confondent avec l'éclat de nos regards? Peut-on mourir encore quand on a tant aimé les sources, les oiseaux, les plantes et les hommes, que notre âme s'est comme dissoute dans leur âme, que notre esprit crépite en eux comme une flamme?
Très vite, il a 20 ou 21 ans quand le premier musicien le met en musique, c'est un Belge, j'ai oublié son nom. En 37, Mio lui téléphone. Le téléphone à l'époque était là. Il a décroché et il a entendu « Ici Darius Milhaud ». Maurice a dit « J'ai cru que le plafond me tombait sur la tête ». Parce qu'il faut se rendre compte de la renommée de Milhaud. Moi, j'ai entendu les œuvres de Milhaud, j'avais pas plus de 4-5 ans, mais mon père était premier basson à l'Orchestre National. Et donc, c'était vraiment un des tout grands musiciens. Et il lui a dit, voilà, je veux mettre 12 de vos poèmes de mère en musique, est-ce que vous êtes d'accord? Et effectivement, il a mis ces 12 poèmes qui, là, je vous l'ai dit, ne sont pas chantés, mais récités.
Pourquoi courir les villes quand un si bel été promène sur les blés ses lumières tranquilles? Le paysage entier entre par la fenêtre avec ses vaches blanches et ses grands peupliers. Il fait doux dans ta chambre, si doux que l'on entend la terre cheminer sur les routes du ciel et mon cœur mesurer au bruit des gouttes claires qui tombent sur l'évier le bonheur que tu perds.
Par rapport à la notoriété de Maurice Carême, c'est un grand moment, le moment où Milhaud le met en musique et où la première de la cantate de l'enfant et de la mère, donc c'est le recueil Mère, donc qui paraît en 1935. Maurice Carême, suite à ce recueil, a le prix triennal, qui est le prix le plus important, le prix institutionnel le plus important en Belgique. Et puis, il y a cette mise en musique, la cantate de l'enfant et de la mère, que Milhaud va venir diriger à Bruxelles avec Madeleine Milhaud, sa femme, qui récite les poèmes de Maurice Carême. Et cette première va être un événement majeur. Le Soir, par exemple, fera sa une sur Maurice Carême. C'est vraiment l'accession à la notoriété publique à ce moment-là, qui se prolongera avec le prix Rossel juste après la guerre, avec le succès des recueils comme La Lanterne Magique, et puis avec énormément de prix, et puis toujours des mises en musique. Francis Poulenc, qui a fini le Dialogue des Carmélites, écrit, on est en 1960, « Mon cher Carême, je suis en train de vous mettre en musique, tout arrive. Il me faudrait un titre général, car comme je l'ai souvent dit à Éluard, qu'il a très bien compris, un titre musical a des exigences secrètes. » Donc voilà, ça va être finalement La Courte Paille, dont vous avez ici la partition dédicacée pour Maurice Carême, son musicien reconnaissant Poulenc.
Le sommeil est en voyage, mon Dieu, où est-il parti? J'ai beau bercer mon petit, il pleure dans son lit cage, il pleure depuis midi. Où le sommeil a-t-il mis son insert rêve sage? J'ai beau bercer mon petit, il se tourne tout en âge, il sanglote dans son lit.
Il y a énormément de chanteuses lyriques qui ont interprété du Maurice Carême. Je m'appelle Diana Gonissen, je suis musicienne et comédienne, soprano lyrique, mais également une fantaisiste. Maurice Carême, c'est
J'en ai au moins étudié 5-6 pendant l'école primaire. J'en ai retrouvé dans des citations à l'école, dans ce qu'on appelle les humanités secondaires. Puis après, j'ai découvert la courte paille. J'ai frappé à la porte de la fondation Maurice Carême et j'ai rencontré avec beaucoup de bonheur Jeannine qui m'a ouvert tous ces placards pleins d'archives, qui m'a montré qu'il y avait plus de, à l'époque, peut-être 2400 compositions qui existaient déjà. Maintenant, on est à 2800. Alors, j'ai interprété Poulenc, Maurice de Grotte, Norbert Rousseau, Henri Sauguet, Jean Absil, Darius Milhaud, Guy Leupartz, Jacques Cheyet, Jacques Stéman, Lise Broly, Berthe Divito, René Berthelot, Dominique Mi, Fanny Tran, Julien Joubert. Et ça en fait seulement une toute petite série.
Donc, je m'appelle Nicolas Chevreau, j'ai 29 ans, je suis pianiste et compositeur. J'ai choisi de mettre en musique Maurice Carême. Dans ma tête, c'était probablement inconsciemment un hommage à Poulenc. Et ensuite, ces mélodies que j'ai écrites, c'est parmi les premières que j'ai écrites. Et donc, je recherchais des textes qui soient très facilement accessibles. Donc, j'ai trouvé justement cette clarté qui est vraiment présente chez Carême. J'en avais vraiment besoin. Par ailleurs, ce qui m'a séduit dans ces poèmes que j'ai mis en musique, ils sont extraits d'un recueil qui s'appelle « La lanterne magique ». Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, chacun de ces petits poèmes, c'est comme un tableau. Mais c'est vraiment un recueil qui peut être un peu hétéroclite, d'une certaine manière.
Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il était un vrai poète. Il avait ce que j'appelle, et que je ne pourrais pas expliquer, cette magie du langage. Il écrivait à peu près toute la journée, jusqu'à assez tard le soir, minuit, une heure. À tel point que parfois, brusquement, il me disait « Je cesse, car je vais devenir fou ». Parce qu'il avait l'impression que le vers qu'il corrigeait tournait dans sa tête sans qu'il puisse s'arrêter. Et il a toujours vécu dans cette angoisse de la folie, à cause de ça. Mais il est certain que la création se situe dans un plan qui n'est pas la normale. D'abord, il était toujours très étonné de ce qu'il écrivait, je l'ai entendu à plusieurs reprises, me dire, au fond, j'aurais jamais cru écrire une telle chose. Je me souviens, pour un poème, je lui avais dit, mais en fait, tu peux écrire n'importe quoi. Et là, il s'est mis en rage. Oh, il dit, tu veux n'importe quoi. Et il a sorti la correction. Et je lui ai dit, mais c'est bon. Il m'a dit, tu te fous de moi, je viens de dire ça comme ça. Puis 15 jours après, sorti le poème, si tu veux lire. Tu avais raison, il me dit, c'est la bonne correction. Dans sa hache, il l'a trouvé. C'est à la fois une œuvre pleine de clarté, mais avec des profondeurs. On peut dire qu'il y a un sens existentiel, souvent, dans ses poèmes. Quand tu fais l'oiseau, c'est typique, hein. En fait, c'est un poème qui peut être lu par tous les gens qui subissent des dictatures et qu'on ne parvient pas à servir. Quand il eut pris l'oiseau, il lui coupa les ailes. L'oiseau vola encore plus haut. Quand il reprit l'oiseau, il lui coupa les pattes. L'oiseau glissa, telle une barque. Rageur, il lui coupa le bec. L'oiseau chanta avec son cœur, comme chante une harpe. Alors, il lui coupa le cou, et de chaque goutte de sang sortit un oiseau plus brillant. pense que Maurice a quand même été très marqué par la Première Guerre. Il avait 19 ans. Et puis par 40-44, je vous assure que ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, dépassait tout ce qu'on pouvait imaginer. C'est sûr qu'il n'aurait pas écrit de tels poèmes si on n'avait pas vécu l'horreur du nazisme. On ne dira jamais l'horreur de ce temps.
Il y a une dimension pédagogique chez Carême, qui n'en impose pas, mais qui est permanente. C'est une question d'être accessible, compréhensible, de faire passer l'émotion avec le moins d'écran possible. Trouver une simplicité. Mais il savait parfaitement, et ça j'en ai été le témoin, que la simplicité, ça se conquiert. Et c'est ce qui m'a laissé personnellement. Pour être simple, il faut beaucoup travailler. Mais sa méthode était incroyablement élaborée. Il lui arrive par exemple d'écrire un poème en 6 strophes, si on veut, et puis il considère qu'il y en a une de trop. Bon. Il ne jette pas la strophe superflue. Il la recopie dans un registre, en la catégorisant par le nombre de pieds du vers et par les rimes utilisées. Je l'ai vu le faire. Il a un poème en élaboration et il constate qu'une strophe ne convient pas. Vu l'organisation de son registre, s'il n'a pas d'idée pour inventer quelque chose, il va dans son registre et il cherche un quatrain de 8 pieds avec telle rime. Il le trouve. Et puis il le place dans le poème. La plupart des gens croient exactement que le poète, c'est un grand inspiré et que ça vient comme ça. Mais chez Carême, c'était de l'artisanat.
Alors voici le bureau.
Voilà. Maurice Carême s'asseyait là. Juste en face de lui, regardez, il y a 2 photos de poètes. Il y a Verhaeren et Odilon Jean-Périer, 2 poètes qu'il appréciait particulièrement. Vous avez tout autour son immense bibliothèque de poésie.
Et elle continue dans la chambre à coucher. Là, vous avez uniquement la poésie française de Belgique. À partir de là, vous avez toute la poésie francophone. Ici sont les anthologies. Il a lu les poètes du monde entier. Et il a lu les grands philosophes. Il était particulièrement marqué par Nietzsche, ainsi par les Zarathoustra, et par Kaeserling, Hermann von Kaeserling. Il a lu tous les livres importants des 3 grandes religions monothéistes. Il a lu la sagesse hindoue, les Upanishads, Confucius, la sagesse chinoise, et la poésie zen japonaise. Et il arrive à cette idée que la vérité n'est peut-être pas accessible à l'homme à la fin de sa vie. Mais il est surtout un panthéiste, mais il n'appartenait à aucune religion.
Poète érudit, hein, oui, ô combien. Ça, c'est aussi le grand paradoxe de Carême. Hein. Je me dis, c'est une rencontre providentielle parce qu'on échappe totalement à la mythologie. Mythologie du génie, de l'inspiration, chose qui vous dépasse, une possession, enfin tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ça. C'est du travail, du travail, du travail.
Maurice n'a jamais écrit pour les enfants. Il disait que ça n'existait pas la poésie pour les enfants. Il disait que c'est de la poésie ou ça n'en est pas. Et ça doit être aussi bon, si pas encore meilleur que pour les adultes. Quand il ne retrouve pas au bout des corrections cette illusion du jaillissement premier, il déchire. Même s'il a corrigé parfois pendant des semaines, il déchire. Il veut donner l'impression que le poème qu'il publie est jailli comme ça du premier coup.
À mes amis les enfants, 1934. J'ai dans ma poche une toute petite clé. Je ne la montre à personne. Oh non, de crainte qu'on ne me la vole, car elle n'est ni en or, ni en argent. Mais parce que les autres ne la voient pas quand je la prends, elle pèse moins qu'une feuille de bouleau qu'emporte le vent, moins qu'une plume dans le bec d'un roitelet, moins que la fumée d'une paille jetée au feu. Et pourtant, cette petite clé est tout mon trésor. Elle me fait voyager plus vite que la lumière.
et j'ai visité le pôle Nord, les Indes, le Congo et l'Amérique sans quitter ma chaise. Grâce à elle, je puis cueillir les étoiles dans les prairies du ciel, jouer avec les poissons, faire des rondes avec les oiseaux, chanter avec les pâtres des montagnes. Et c'est avec elle que je suis descendue dans le royaume des fleurs. Vous avez aussi une petite clé comme la mienne. Mais si, cherchez bien au fond de votre poche. Là, vous la tenez.
On peut vraiment aller trouver un trésor dans la poésie de Maurice Carême. Qu'on soit adulte ou enfant. J'ai rendu hommage à Jacques Prévert pour faire un parallèle, et c'est pareil. Ceux qui réduisent les poètes pour enfants à quelque chose de niais, de rétréci, se trompent vraiment. Dans mes spectacles, quand j'ai un papa qui regarde son téléphone en disant quand est-ce qu'elle va arrêter de voir des bateaux blancs dans le ciel, j'ai envie de lui dire c'est dommage en fait. Tu passes à côté de la beauté de la vie si tu perds ton regard d'enfant. Les enfants dans mes spectacles ont cette capacité d'émerveillement. Ils adorent. Mais c'est incroyable, ils sont totalement émerveillés. Ils ont une capacité à s'émerveiller pour des toutes petites choses, à développer leur imaginaire. Enfin, je prends toujours cet exemple du bateau blanc dans le ciel, parce que il existe chez Charles Trenet, il existe chez Prévert, il existe chez Maurice Carême. Ils ont tous vu des bateaux blancs dans le ciel. Un bateau, c'est sur l'eau, normalement. Ou si je prends un autre exemple, Maurice Carême qui a un chat rouge, pourquoi pas? Pourquoi on pourrait pas voir un chat rouge ou bleu ou... Enfin, les peintres le font. Ils subliment le quotidien, ils subliment des petites choses en peinture. On peut sublimer. Donc c'est la force des mots aussi de pouvoir sublimer la vie, la beauté de la vie. Donc les enfants qui ont cette capacité, mais qu'est-ce qu'ils sont grands ?
Après le royaume des fleurs, cette petite clé vous en fera visiter bien d'autres. Et plus tard, quand vous serez grand, si vous êtes triste ou fatigué, si l'on vous a trompé, raillé, meurtri, songez à cette petite clé. Cherchez-la bien au fond de vous-même. Elle vous ouvrira toujours les portes du plus beau domaine, celui du rêve, celui du cœur.
Maurice Carême.
Maurice Carême.
Poète, tout simplement. Avec la complicité de Jeanine Burny, du secrétaire perpétuel de l'Académie des Lettres de Belgique, Jacques de Decker, des élèves de l'école des Marronniers à Anderlecht, de François-Xavier Lavenne, de la chanteuse lyrique Diana Gonissens et de ses élèves, de l'illustrateur Gabriel Lefebvre, du pianiste et compositeur Nicolas Chevreau, du chanteur Jackie Galou, de la chanteuse Domitille et la voix de Maurice Carême interprétant ses poèmes. Prise de son et mixage Alain Joubert. Coordination Christine Bernard et Pascaline Bonnet. Un documentaire d'Alain de Valpeau réalisé par Jean-Philippe Navarre.
Oh,